série de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il n'y a pas que Rouletabille dans la vie. Rouletabille, honnête journaliste détective, Rouletabille qui n'est pas vraiment un solitaire. Il ne déteste pas, au contraire, avoir un interlocuteur, Sinclair, le narrateur du mystère de la chambre jaune, du parfum de la dame en noir. Mais c'est souvent pour le mener en bateau, ou en tout cas pour lui rendre la vérité encore plus obscure et plus lointaine. Non, il n'y a pas que Rouletabille, il y a aussi, dans l'œuvre de Gaston Leroux, Chéri Bibi, qui lui a une bande, et pour cause. En 1991, une série d'été s'intéressait aux héros du roman noir français. Et bien sûr, Chéri Bibi en était. Aux côtés de Noël Simsolo, producteur, il y avait Didier Daninx, Fatalitas.
Héros du roman noir français, 9e émission, Chéri Bibi.
Extrait de Les cages flottantes de Gaston Leroux. La matinée s'écoula dans des inquiétudes qui ne faisaient que croître. Le jeune homme questionna les gardes qui avaient été de service devant la petite porte, mais ceux-ci lui répondirent qu'ils n'avaient vu sortir ni entrer Chéri Bibi. Où était Chéri Bibi ? Toujours dans la cabine, évidemment. Et qui faisait-il ? L'extraordinaire était que, depuis 24 heures, on ne portait plus à manger dans cette cabine-là. Les angoisses de la ficelle gagnèrent peu à peu tout l'équipage. On ne voyait plus Chéri Bibi, on voulait le voir. On aurait bien questionné le canac et la comtesse, mais, enfermés eux-mêmes dans la cabine depuis des heures, ils restaient à leur tour aussi invisibles que le marquis et Chéri Bibi. L'émoi fut à son comble quand, tous les officiers réunis dans leur carré pour le déjeuner, Gueule de Bois décacheta et lut un pli que venait de lui faire remettre le garde de planton devant la fameuse cabine. Le papier contenait d'abord trois phrases brèves de Chéri Bibi. « Ordre d'obéir en tout au canac jusqu'à ce qu'on me revoie. Le canac ne fera que vous transmettre mes instructions. Obéir au canac, c'est obéir à Chéri Bibi. » Sous ces trois phrases, la signature de Chéri Bibi. Et puis ces lignes, de la main du canac. La comtesse et moi, nous soignons Chéri Bibi, qui a attrapé, en le soignant, les fièvres du marquis. La vie de Chéri Bibi n'est pas en danger, mais il nous est impossible de le quitter pour l'instant. Prière à Gueule de Bois et à tout l'état-major de rassurer l'équipage. Les bandits se regardèrent. La ficelle, qui était venue aux nouvelles, lut et relut le papier. Tout cela paraissait tellement mystérieux que nul n'osait émettre une hypothèse. Du coup, tout l'équipage se trouva désemparé et une morne tristesse régna à bord. Chéri Bibi était malade. Il n'y avait pas un homme parmi ses forçats qui n'eût donné l'un de ses membres pour le sauver. Pour sûr que le choléra était à bord, et eux qui avaient cru à la blague. Les surveillants qui avaient été successivement de garde devant la porte de la cabine avaient échangé leurs réflexions, et celles-ci maintenant couraient tout le bâtiment. Ce qui les avait étonnés par-dessus tout, c'était cet incroyable silence. Quand le marquis et Chéri Bibi se trouvaient seuls dans la cabine, les gardes n'entendaient aucun murmure, lequel serait fatalement venu à leurs oreilles s'il y avait eu derrière la porte la moindre conversation. De même, lorsque la comtesse et le canac pénétraient dans la cabine, cette entrée n'était suivie d'aucun échange de paroles dont on eût perçu l'écho. Le service ménager était entièrement fait par la comtesse, et ce service se réduisait à très peu de choses. Peu de nourriture venue du dehors, quelques bols de tisane, de bouillon, et c'était tout, et encore pas tous les jours. On eût dit que cette cabine était habitée par de purs esprits. Enfin, tout de même le dernier jour, un garde avait entendu d'effrayants soupirs. Il ne pouvait dire naturellement qui les avait poussés. La sortie du canac et de la comtesse fut attendue ce jour-là avec une impatience que l'on comprendra facilement. Or, on ne les revit ni l'un ni l'autre. On entendait seulement leurs pas de temps en temps. La ficelle, qui ne dormait point depuis plusieurs nuits, se laissa finalement aller au sommeil, bien qu'il s'en défendît. Il dormait comme une brute quand un camarade surveillant, qui venait de cesser sa garde près de la cabine, le réveilla. Cette fois, le garde avait parfaitement entendu la voix de Chéri-Bibi, une voix très lasse, qui grognait et qui disait, du moins le garde avait cru entendre cela, qui disait « Pas les mains, pas les mains !» La ficelle fut debout immédiatement. Pour sûr, il est arrivé un malheur à Chéri-Bibi. En même temps, puisqu'il était impossible d'approcher de la cabine, il pénétrerait dans l'infirmerie sous n'importe quel prétexte, et là, en collant son oreille contre la nouvelle cloison, il pourrait peut-être entendre quelque chose. Terriblement anxieux, quelques minutes plus tard, il était à son poste. Et en effet, il entendit. Le garde n'avait pas rêvé. Chéri-Bibi continuait de se plaindre, mais, événement extraordinaire, ses plaintes, qui eussent en toute autre occasion dénoncé une souffrance personnelle, plaignaient l'autre. Car il n'y avait pas d'erreur, il voulait qu'on laissât l'autre tranquille. Qu'est-ce qu'on lui faisait donc à l'autre ? La voix de Chéri-Bibi disait en gémissant « C'est assez comme ça. Laissez-lui ses mains, laissez-lui ses mains, c'est atroce. Ah non, non, pas les mains, pas les mains !» Et là-dessus, Chéri-Bibi poussait un effroyable soupir. Quant à l'autre, on ne l'entendait pas. Il ne se plaignait pas. C'était à n'y rien comprendre. Cependant, la ficelle était au courant de bien des choses. Depuis qu'il servait Chéri-Bibi, celui-ci lui avait fait bien des confidences. Et lorsque la ficelle avait appris à bord que l'un des naufragés était le marquis de Touchet, il avait frémi pour le riche gentilhomme. Que Chéri-Bibi se vengeât du mari de Cécilie en le martyrisant ou en le faisant martyriser, c'était dans l'ordre des choses du bagne. Mais pourquoi, puisque c'était le marquis que l'on martyrisait, était-ce Chéri-Bibi qui gémissait ? Et quel soupir ! La ficelle avait froid dans les moelles. Un moment, il reconnut la voix du Canac qui disait sur un ton dur « Chéri-Bibi, tu sais bien que tu ne dois pas parler !» Et Chéri-Bibi répondit « C'est bien, je ne dirai plus un mot, mais c'est assez comme ça, laissez-le tranquille. Je ne veux pas que vous touchiez à ses mains, non, non, pas les mains !»
Bien avec moi, justement, deux tenants de ce groupe surréaliste. Le mot tenant n'est peut-être pas très beau, mais Léo Mallet, celui que Rabigneau appelle, à juste raison d'ailleurs, le seul surréaliste du roman policier, et Pierre Prévert, qui a fait partie de ce renfort spectaculaire qui est arrivé au groupe surréaliste en 1925, puisque vous étiez avec Tanguy, malheureusement, est disparu maintenant, Marcel Duhamel, l'actuel directeur de La Série Noire, et bien sûr votre frère Jacques Prévert. Le surréalisme qui a adopté Gaston Leroux, alors que le surréalisme a été tellement dur pour certains écrivains. Alors je vais vous demander tout de suite, pourquoi ce choix ?
Nous connaissions, mon frère et moi, Gaston Leroux, avant de rencontrer le groupe surréaliste. Et c'est Jacques, précisément Jacques, qui m'avait fait lire les premiers livres que j'ai eu en ma possession, et entre autres, il y avait Gaston Leroux en bonne position. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Gaston Leroux, et plus précisément la Reine du Sabbat.
Léo Mallet.
Ah bien, moi je suis un petit peu comme Prévert. Lorsque j'ai rencontré André Breton et que j'ai adhéré, moi, au groupe surréaliste, je connaissais aussi déjà Gaston Leroux. Je connaissais Fantomas, et je connaissais Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Je crois que c'est ces trois...
Les trois terribles.
Ces trois terribles, on les lit en même temps. Et j'ai été surpris, j'ai été plutôt content de voir que, par exemple, Paul Éluard avait chez lui relié un exemplaire de Chéri Bibi, la fameuse couverture avec « Pas les mains, pas les mains », et dédicacé par Gaston Leroux. Alors, je n'ai pas eu de discussion avec Breton au sujet de soit de Fantomas, soit de Gaston Leroux. Parce que déjà, quand j'ai rencontré Breton, c'était en 1930, déjà la période, si l'on peut dire, Leroux-Fantomas, était déjà assez lointaine. Je crois que les premiers temps, les surréalistes, lorsqu'ils ont fait des papillons sur lesquels il y avait la fameuse phrase « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat », déjà c'était une période qui était un petit peu dépassée, on s'occupait d'autres choses. Alors je crois que les surréalistes ont manifesté de l'intérêt à Gaston Leroux à cause de ces fameuses phrases en italique, qui constituent d'ailleurs, si on les met bout à bout, je crois que Roujal a fait quelque chose comme ça, ça constitue un poème. Et surtout des phrases étonnantes, comme « Le presbytère n'a perdu son charme, ni jardin de son éclat. Maintenant, il va falloir manger du saignant. Pas les mains, pas les mains !» que dit Chéri Bibi, le machin.
Didier Deninx, aujourd'hui, nous allons rencontrer le personnage très connu, trop connu, peut-être assez méconnu en même temps, de Gaston Leroux, donc déjà un grand écrivain. Et ça n'est pas Rouletabille, c'est Chéri Bibi. Alors, pour vous, Chéri Bibi, c'est quoi ?
Il y a la chose essentielle, c'est l'inventeur du gimmick ou l'inventeur du jingle, c'est-à-dire qu'il a toujours cette phrase qui conclut pratiquement chaque chapitre, qui est fatalitas, donc c'est l'espèce de personnage qui est totalement poursuivi par le destin, donc c'est premièrement cette chose-là. Alors il y a tout un tas d'études de revalorisation de Chéri Bibi en parlant que c'est le mythe d'Œdipe qui aurait été réécrit par Gaston Leroux. Disons que je préfère le texte original quand on voit un petit peu la manière dont c'est écrit. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très vieilli, mais on peut repérer le vieillissement dans l'utilisation par exemple de l'argot. C'est un des premiers textes peut-être Chéri Bibi où l'argot est utilisé d'une manière systématique et où là il y a encore des techniques qui sont pas au point, c'est-à-dire l'argot, il y a un mot d'argot et il y a tout de suite un mot entre parenthèses qui le traduit. Toutes les injures sont uniquement mises en initiale avec trois petits points, donc il invente l'inflation des trois petits points avant Céline, mais pour des raisons contraires, c'est-à-dire des raisons de censure et non pas des raisons de sens. Donc il y a ça dans Chéri Bibi pour moi, en premier lieu.
Et puis au niveau de la structure, on voit que déjà, à l'époque où Chéri Bibi est écrit, le cinéma est quand même muet, est comme entré, disons, dans la tête des écrivains.
Oui, là il y a des effets expressionnistes très très forts, donc ça échappe un petit peu au feuilleton. Il y a toujours la structure du feuilleton, mais il y a la volonté de donner des grands coups de cymbales en plein milieu du concert là, qui donc c'est là aussi une inflation de rebondissements. Et il y a une chose, c'est cette espèce d'homme qui est Chéri Bibi, qui dans la tête de tout le monde c'est un nom de catcheur maintenant et tout, mais c'est un marquis, donc c'est quelqu'un qui
est devenu marquis en changeant de peau, c'est encore très compliqué.
Oui, c'est très compliqué, c'est un personnage multiple qui change d'identité et qui est toujours en train de sauver des innocents, et pour sauver des innocents, ils ne peuvent pas faire autrement que de serrer des kikis et de tuer des gens. Donc c'est quelqu'un qui est voué au malheur, pour faire le bien, il est obligé de faire le mal.
Tu as fait vite, as-tu...
Chéri Bibi, vous êtes apparu en 1914 et après 5 volumes, vous avez disparu en 1925. C'est Gaston Leroux qui vous a imaginé.
Non, minute, je voudrais savoir pourquoi vous m'avez choisi pour figurer dans cette série. Pourquoi pas Rouletabille ?
Je peux vous répondre. Rouletabille est un journaliste détective, mais ses aventures ne s'apparentent pas du tout au roman noir, tandis que les vôtres, Chéri Bibi...
Oui, compris. Moi, je suis un forçat, un assassin, un méchant, oui, c'est vrai. Je suis le crime. fatalitas.
Vous n'êtes pas si mauvais que vous le dites, et puis vous êtes à la fois l'assassin, l'innocent, la victime, le détective, le justicier et le bandit. En quelque sorte, vous êtes la somme des archétypes du genre.
La légende, toujours la légende. Non, 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 moi je suis un honnête homme. Ah. Ou bien je l'ai été, ou j'aurais pu l'être. Mon ennemi, c'est la fatalité. Elle ne me lâche pas, j'accumule les dévaines. À faire pitié si je n'étais pas si terrible. Car je peux être terrible. Alors qu'au plus profond de moi, j'aspire au calme, au bonheur.
Vous n'en êtes pas moins un individu féroce, toujours en train de s'évader, toujours en train de tuer.
Mais malgré moi, je réfute bien des interprétations qui ont été faites à mon sujet. Elles sont souvent fausses. Je ne suis pas un anarchiste, moi. Je trouve même que la société est très bien faite, monsieur. Je rêve d'y tenir un jour une place honorable. Mon plus grand souhait est de devenir un capitaliste. Ouais. Je respecte l'Église et la magistrature. Mais si Dieu voulait discuter avec moi, il passerait quand même un mauvais quart d'heure. Hein. Parce que j'en ai trop subi. On me résume par fatalitas. Mais on devrait écrire sur ma tombe, pas de chance. Voilà la raison de mon destin, la poisse. Au début, j'étais un homme bon, doux et aimant. À présent, c'est le contraire. Et ça me tue.
Comment en êtes-vous arrivé là?
À cause de mon sens de l'honneur. Oui. Et par amour. Je suis né à Dieppe, dans une famille pauvre, mais honnête. Hein. Mon nom est Jean Mascard. Tout jeune, j'aimais en secret une demoiselle de bonne famille, Cécile Bourrelier. Cécilie. Aucune chance de l'épouser, ses parents étaient trop riches. Mais je l'aimais. Je la regardais tant que je pouvais. Et quand mon père voulut me mettre en pension à Rouen pour que je devienne géomètre, ah ben j'ai refusé. Je ne voulais pas m'éloigner de Cécilie. Alors je suis devenu boucher.
Pourquoi le métier de boucher?
Dès ma plus tendre enfance, je me suis senti attiré par la viande saignante. Je m'arrêtais à l'aventure des boucheries pour la regarder. Plus tard, j'allais à l'abattoir et j'admirais l'égorgement des veaux. Et puis, boucher, c'est un métier honnête. En l'exerçant, je portais la viande chez les bourreliers et je voyais ma Cécilie. Elle me demandait parfois si la viande était bien persillée. J'en rougissais. J'aurais pu vivre longtemps ainsi en me contentant de cela. Fatalitas. Encore. Le père de Cécilie était un affreux saligaud et il abusa de ma sœur Jacqueline. Elle faillit en mourir. Elle entra en religion. Quelque temps plus tard, sur la route, je vis deux hommes qui se battaient à la nuit tombante. Celui qui avait le dessous était le père de Cécilie. Alors moi, monsieur, j'ai voulu le défendre en menaçant son agresseur avec mon couteau de boucher. Mais c'est le père de Cécilie qui a pris le coup. Ainsi, j'ai tué celui que je voulais sauver. L'autre a fui. On m'a arrêté et envoyé au bagne. J'avais 15 ans.
Mais vous vous êtes évadé?
Oui. J'ai appris que Cécilie avait épousé un homme qu'elle n'aimait pas et que son père voulait comme gendre. Le marquis Maxime de Touchet. C'était un ignoble individu qui ne s'intéressait qu'à sa fortune. Il lui fit un enfant, un garçon.
Vous l'aimiez toujours?
Je l'aime toujours. C'est pourquoi j'ai voulu devenir honnête. Je fis des cambriolages aimables et quelques escroqueries sans violence. Et puis, poursuivi par mon désir d'être honnête, j'entrai comme garçon de bureau chez un banquier milliardaire. Un homme qui admirait les anarchistes et qui me fit lire Kropotkin. Moi, je fus scandalisé par ce zig. J'ai démissionné. Le lendemain de mon départ, sa banque était dévalisée. Il a dit que c'était moi. On me mit alors tous les délits du monde sur le dos. La légende de Chéri Bibi commençait. Et quand je pense que ce surnom m'avait été donné par ma sœur, parce que j'étais un enfant sage et gentil.
Enfin, vous êtes renvoyé au bagne et vous vous évadez encore.
Et jusqu'au jour où l'on m'accuse d'avoir coupé une bonne, vous m'entendez, une bonne, en 17 morceaux. Je me suis présenté moi-même à la police. J'ai laissé le juge me mettre 1000 crimes sur le dos. Et ce fut le départ pour Cayenne.
Le bagne?
Oui, monsieur, le bagne. Mais sur le bateau qui vogue vers le bagne, je me retrouve à la tête d'une révolte. C'était pas mon idée, moi je voulais fuir seul et sans dégâts. Encore la fatalité. Et après s'être emparé du bateau, nous recueillons les naufragés, parmi lesquels se trouve le mari de Cécilie.
Alors là, l'idée de vengeance vous affole.
Ouais. Pour mon malheur. Car j'avais un bagnard nommé Le Canac. Un peu anthropophage. Mais surtout ancien médecin. Il m'a proposé l'insensé. Découper la peau de Maxime du Touchet et me la greffer pour que je prenne ses traits. J'hésitais. Longtemps. L'espoir me tenait aux entrailles avec sa gueule de chien. J'ai cédé. Pendant des jours et des jours, le Canac a découpé la chair du marquis du Touchet pour me la greffer, et il greffait la mienne sur le marquis. J'ai vécu alors sous les traits de l'époux de Cécilie qui, lui, n'a pas survécu à la greffe. Cette opération m'a marqué. C'était atroce. Je criais « Par les mains, par les mains !» Mais je ne pouvais pas refuser ma vengeance. Je suis devenu vraiment méconnaissable. Sauf pour mon copain la ficelle, mon âme damnée. Ouais, j'étais devenu pire que le diable. Bien pire. Calculateur. J'ai appris des belles manières, tout pour être le marquis, pour retrouver Cécilie.
Qu'il avait trompé le marquis. Son fils était le fruit d'un adultère avec un ami d'enfance.
Je lui ai dit, ne craignez rien pour vous, ni pour votre fils. Le coupable, c'est moi. Et je l'ai rendue heureuse. Et nous avons eu un fils ensemble.
Vous aviez enfin votre place dans la société. Le bonheur avec Cécilie, mais dans le corps d'un autre.
Ce qui m'était devenu égal. Mais le Canac est revenu me faire chanter. Je l'ai tué, plus de témoins. Mais la fatalité ne me laissa pas de répit. Un jour, j'ai appris que l'assassin du père de Cécilie, ce n'était pas moi, mais le marquis du Touchet, l'homme dont je portais la peau. J'avais pris la peau d'un honnête homme et c'était un assassin. Alors j'ai tué un saligaud. Avec la ficelle, nous avons maquillé le cadavre et nous l'avons défiguré à l'acide sulfurique. En voulant fuir l'incendie que j'avais allumé pour effacer les empreintes du meurtre, je vis que la police arrivait. Alors je me suis défiguré à l'acide sulfurique, mais Cécilie m'a reconnu dans les flammes. Elle n'a pas reconnu son époux, mais bien chéri Bibi. Je suis retourné dans le brasier.
Mais vous n'êtes pas mort.
Ah non. Plus tard, je suis retourné au bagne pour faire évader Pallas, le marquis de Saint-Dalmas, accusé à tort d'un crime crapuleux. Ensemble, nous fîmes fortune et il prit le nom de Didier d'Aumont, un homme courageux et patriote que d'anciens forçats voulut faire chanter. Je me suis sacrifié pour faire éclater son innocence et je suis reparti au bagne.
Pas pour longtemps.
Il m'a bien fallu revenir pour aider mon fils. J'ai retrouvé Cécilie et j'ai failli devenir ministre de la Justice. Moi, chéri bébé, en tuant, hélas, toujours la fatalité. Et je suis reparti au-delà des mers, mais plus dans une cage de forçat. Non, en première classe, vers les Antilles.
Fini les combats.
Gaston Leroux est mort avant de raconter la suite de mes aventures. Je ne vous la dirai pas, mais sachez que la fatalité a continué d'entraver mes aspirations à une vie honnête.
Cette aspiration légitime vous a quand même conduit à combattre tout le monde.
Mais moi, je ne suis pas un anarchiste, je ne suis pas un collectiviste. Je n'ai pas de remords quand je tue. Je ne tue que par nécessité. Jamais pour une idée ou pour le profit. Je ne suis pas un chef de bande, ma légende le laisse croire, mais c'est faux. Il n'y a que la ficelle qui me suit. Mon ombre, mon Sancho Panza. J'ai le sens de la justice et de la famille. Prêt à tout pour Cécilie et pour notre fils.
En dehors de Cécilie et de votre sœur, je remarque que les femmes ne comptent pas à vos yeux.
Oh, ma sœur est comme moi. Elle est poursuivie par la fatalité, mais elle s'est réfugiée dans l'église. Moi, c'est dans le crime. Mais je suis un garçon et je ne peux pas agir comme une fille. Bon. Cécilie, elle, c'est ma vie. Les autres femmes ne m'intéressent pas. Je refuse leurs avances. Je peux les estimer comme camarades de combat, mais je n'ai pas fait tatouer sur ma poitrine à Cécilie pour la vie, chérie Bibi, pour convoiter d'autres femmes. Je suis très moral, même si je suis le crime. Ma récompense sera d'être initié à l'amour charnel par celle que j'aime. Voilà.
Certains vous considèrent comme un monstre. Chérie Bibi, êtes-vous un monstre?
Ah, au naturel, je suis plutôt laid. Et au moral, je suis moins monstrueux que la plupart de ceux qui se dressent sur mon chemin. Il m'arrive d'être un justicier du côté des lois. Il m'arrive de changer d'identité et de sauver ceux que j'estime. Je suis un être moral. Le crime peut être moral, même s'il est toujours sans excuse. Ah, cela tombe bien, je ne cherche jamais d'excuse. Je compte sur mon instinct et mon sens du calcul pour que mes actes soient ceux qu'ils doivent être.
Chéri Bibi, vous n'êtes pas le premier forçat du roman noir.
Et après, Vidocq, Vautrin, Rocambole, Jean Valjean, Camparini, vous savez, le héros de Ernest Capendu.
Oui, oui, oui.
Les personnages de Pierre Zaccone, Roger Lahonte, ils appartiennent au 19e siècle. Moi, je suis de 1914. Je suis un contemporain de Fantômas. Mais je ne fais pas dans le populisme ou l'horreur, le poétique baroque ou les épopées anarchistes. Je suis une force terrible, au service d'elle-même, malgré elle et malgré tout. Je vous ai déjà dit que Chéri Bibi ne veut qu'être honnête et connaître le bonheur au sein de la société. Bon, la preuve, je ne suis heureux que dans ces conditions-là. Sans la fatalité, je serai le plus bel exemple de réinsertion que l'on puisse souhaiter.
Vous ne cessez de dire fatalitas, fatalitas, la fatalité, comme le fatum du théâtre grec.
C'est exactement la même chose. Lors d'un de mes répits, j'assiste à une représentation de Diproie et je m'exclame « Voilà un type dans mon genre ». C'est pas étonnant comme référence. Mon créateur, Gaston Leroux, est obsédé par Oedipe. Lisez « Le mystère de la chambre jaune » ou « Le parfum de la dame en noir ».
Oui, bien sûr. Oui.
Le jeune Rouletabille a un problème réel de ce côté-là.
Oui, mais vous aussi. Comme Oedipe, vous enquêtez pour connaître le véritable coupable du crime dont on vous accuse et vous empruntez la peau d'un personnage qui est justement ce coupable. Tous vos efforts conduisent à votre propre ruine, comme Oedipe.
Mais, vrai. Avec moi, c'est l'assassin qui enquête sur le meurtre qu'il a commis sans le savoir. À moi seul, je suis la victime de l'erreur judiciaire, celui qui veut démontrer cette erreur judiciaire et celui qui a commis véritablement le crime. Tout en étant forçat, assassin, innocent et avide d'avoir ma place dans la société. Je cumule. Sans le génie de Gaston Leroux, cela ferait peut-être un peu trop.
Oui, victime, enquêteur et criminel à la fois, c'est peu commun.
Fatalitas.
Héros du roman noir français. 20 émissions de Noël Simsolo, réalisées par Dominique Costa. Aujourd'hui, Chéri Bibi, avec la voix de Bruno Balp et de Didier Deninx. Texte de Gaston Leroux, lu par Pierre Vernier. Archive, INA. Équipe technique, Jean-Louis Boissonnade, Yves Builly, Jean Fèvre et Agnès Warnier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 août 1991. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Viens sur ma planète, viens sur mon nuage, viens au cœur de mon étoile. Viens sur ma comète, viens dans son sillage, le vent gonflera ta voile. Les murs des prisons un jour tomberont et les portes s'ouvriront. Puisque le destin nous a séparés, qu'il a coupé nos chemins.